lu.
Et approuvé.
Ça serait comme un mec qui lirait des livres à la radio, et...
Pondérant de, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès évidemment, l'âge de 7 évidemment. Ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de traîneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir éveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on ne leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Les vainqueurs. Il était une fois un petit pays. Dans ce petit pays, on disputait le grand championnat de football. Il y avait de nombreuses équipes, parmi lesquelles l'équipe des vainqueurs et celle des vaincus. On les appelait ainsi, pour ne pas créer d'imprévus dans le championnat. En effet, les vainqueurs devaient prévaloir au terme de la loi, tandis qu'il était légalement interdit aux vaincus de gagner le moindre match. Lors de la première journée du championnat, les vaincus l'emportèrent 3-0, tandis que les vainqueurs furent battus avec le même score. La deuxième journée du championnat vit les vaincus l'emporter 4-0, tandis que les vainqueurs, bien qu'ayant marqué un but, furent battus sur le score de 5-1. Bien entendu, ces résultats étaient purement indicatifs, car les vainqueurs étaient de toute façon les premiers au classement, tandis que les vaincus serait bientôt rétrogradé dans la division inférieure. Le dernier match du championnat opposa justement les vainqueurs et les vaincus. Au terme de la première mi-temps, les vaincus menaient 6-0. Au bout de la seconde mi-temps, ils avaient mis le ballon 9 fois de plus dans les filets. L'arbitre disqualifia alors 5 joueurs de la formation des vaincus et fit jouer les prolongations, pendant lesquelles les vainqueurs réussirent à marquer un but. Sur le score de 15-1, l'arbitre disqualifia tous les autres joueurs de l'équipe des vaincus et on passa au tir au but. Le match s'acheva sur le score de 16-2 en faveur des vaincus, mais le trophée fut remis au vainqueur qui, en tant que vainqueur, avait le droit de vaincre. Hein ? Les supporters de l'équipe des vainqueurs descendirent dans la rue, ils firent la fête toute la nuit. Mais il y en eut quelques-uns pour protester. Quel sens ça a de disputer le championnat puisque tout le monde sait que ce sont les vainqueurs qui le remporteront en vertu de la loi ? C'était une remarque sensée. Et le fait est qu'à la saison suivante, on évita de faire jouer les matchs et que le titre de champion fut décerné aux vainqueurs sans qu'ils aient besoin d'aller sur le terrain à part pour la photo à imprimer sur les images de joueurs de foot Panini. Pourquoi se compliquer la vie ? Dans le petit pays, il y avait déjà plein de problèmes, on avait besoin de simplifier. La réforme de l'école abolit examens et interrogations parce qu'un enseignant aguerri comprend tout de suite qui est un bon élève et qui est le dernier de la classe. On faisait passer et on faisait redoubler dès le premier jour d'école et on se mit bientôt à expédier cette formalité à domicile, ce qui occasionna une forte réduction du personnel, enseignant et non-enseignant, ainsi que la fermeture des écoles elles-mêmes qui ne servaient plus à accueillir des cours objectivement inutiles. Pour éviter d'interminables procès, on eut l'idée de dresser des listes de criminels hypothétiques qui, au moment où quelques crimes étaient connus, étaient arrêtés d'office, indépendamment du fait qu'ils fussent ou non réellement impliqués dans un vol ou un homicide. Bien entendu, les riches et les puissants furent exclus de ces listes. Ceux qui ont du pognon et du fric réussissent toujours à passer à l'as, et donc pourquoi perdre du temps à leur faire des procès ? Au bout d'un moment, on alla choisir les criminels directement en salle d'accouchement, évitant d'inutiles tracas bureaucratiques. Parmi les belles nouveautés, il y eut l'abolition de la guerre. Les forces armées s'organisèrent. Tout le monde était bien conscient du fait que la finalité de la guerre, qu'elle soit ouvertement offensive ou qu'elle se camoufle en action pour la paix, consiste dans tous les cas à faire mourir un bon petit nombre d'innocents. Au lieu de perdre du temps à pousser les soldats des factions opposées et à se tirer les uns sur les autres, on décida que chaque État ferait mourir un nombre donné de ses propres militaires, qu'il en blesserait certains, que d'autres tomberaient malades après avoir été exposés au gaz toxique ou à l'uranium appauvri, et que beaucoup d'autres encore seraient amputés des bras et des jambes. Les généraux veillaient en personne à faire feu sur leurs subordonnés, tandis que les ministres de la Défense venaient pleurer en direct à la télé sur les tombes et les monuments, inauguraient des parcs, découvraient des plaques commémoratives et consacraient des journées à la mémoire des victimes. Il était évident qu'une partie des petits citoyens du pays, du petit pays, irait au paradis et l'autre partie en enfer. Mais il était inutile d'attendre l'éternité, si bien que la grande église du petit pays déclara que le jugement universel adviendrait à la fin de l'année. Tout le monde sait que quelque part, le destin de chacun est d'ores et déjà écrit. Des fois on s'en rend compte plus clairement, d'autres fois un peu moins, mais tout le monde sait de quoi il retourne. Autant régler cette question une bonne fois pour toutes, dans un esprit de chrétienne résignation. Il est inutile de se faire des illusions. A-t-on jamais vu le fils du président aller bosser comme balayeur ? Ou à l'inverse, est-il pensable que le fils du balayeur devienne président ? Les enfants des riches seront les riches seigneurs de demain. Les enfants des pauvres les serviront avec obéissance.
La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, piede lente ognun si partì sotto l'acqua che cadeva a rovescio. Grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline e gran valli. Si moriva dicendo così: oh Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza.
La grève des philosophes. Il était une fois un petit pays. Un jour, dans le petit pays, il y eut une grève. Le secrétaire se rendit chez le président du conseil et lui dit « Aujourd'hui, la grève commence. » « Personne n'est indispensable, » répondit le président. « Qui est-ce qui fait grève ? Les boulangers ? On ne vit pas que du pain. »« Nous mangerons des brioches, » comme disait Marie-Antoinette. « Ce sont les médecins qui font grève ? On mangera des pommes, parce qu'une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. »« Monsieur le président, » dit le secrétaire, « aujourd'hui ce sont les philosophes qui font grève. » Au début, personne ne s'en aperçut. Comme si c'était les puces sur les chiens ou les caries dans la bouche qui faisaient grève. Mais ensuite, les philosophes croisèrent les bras. Et ils les croisèrent devant les livres dans les bibliothèques et dans les librairies privées des citoyens privés, et puis dans les écoles et dans les universités. Ils croisèrent les bras devant la pensée. Sans la pensée, on ne peut pas penser. Les premiers à réagir furent les ouvriers, qui dès le début de la grève, au lieu de défiler en cortège, restèrent immobiles, leur drapeau à la main. Ils laissèrent tomber les banderoles et s'en allèrent trouver Charles Marx. Et ils lui demandèrent « Pourquoi est-ce qu'on travaille 8 heures par jour et que ça ne suffit pas, et qu'à la fin il faut bosser 4 heures de plus pour avoir un salaire et qu'à la fin on se fait licencier quand même ?» Marx aurait pu leur dire qu'il fut un temps où le travailleur allait en forêt. La forêt appartenait à tout le monde et celui qui y allait se prenait un morceau de bois. Ce morceau de bois devenait le sien et il le travaillait avec des outils qui lui appartenaient pour fabriquer une chaise qui était à lui et qui pour cette raison coûtait le juste prix. Mais maintenant, l'ouvrier va bosser dans une usine qui n'est pas à lui, il travaille sur une machine qu'il ne peut pas s'acheter et construit quelque chose qui ne lui appartient pas et dont souvent il ne sait même pas ce que c'est. Ça, c'est l'aliénation, aurait pu leur dire Marx. Il ne s'agit pas d'une espèce de tristesse légère, d'un sentiment élevé comme dans les films en noir et blanc des années 60, mais d'une ruse du marché pour enrichir les patrons. Mais Marx ne leur dit rien, parce que c'était le jour où les philosophes faisaient grève. À l'église aussi, la grève démarra au beau milieu de la messe. Le petit curé leva l'hostie et le calice et resta les bras suspendus en l'air. Il pensa « Je suis censé faire quoi avec ce pain et ce vin ?» Il posa la question au bon chrétien, mais ils en savaient encore moins que lui, et alors ils s'en allèrent tous ensemble trouver le pape. Le pape tenait sa tiare en main et ne savait pas comment on est censé mettre ce chapeau, le chapeau avec deux pointes en l'air dont on ne sait pas si ça sert à protéger du froid ou si c'est une punition pour les cancres. Le pape leur dit « Croyez, c'est tout. » Sauf qu'ils ne savaient pas pourquoi. Parce que le pape aussi a besoin des philosophes. Sans la pensée, lui aussi il titube dans l'obscurité de la foi. Alors, ils s'en allèrent trouver Augustin d'Hippone, Thomas d'Aquin, Hegel et Benedetto Croce. Eux, ils auraient pu leur expliquer que Dieu ne rentre pas dans un morceau de pain comme un bœuf dans une boîte de cornets de bif. Ils auraient pu leur dire que la foi est un choix. Mais ils gardèrent le silence, parce que c'était le jour où les philosophes faisaient grève. Et jusqu'au petit boulanger qui fait ses comptes au crayon sur un bout de papier d'emballage. Il mit en colonne 2 lyres de jambon et 3 de fromage. En plein milieu de l'addition, la grève commença et lui, il resta son crayon en main sans aucun chiffre en tête, parce que la philosophie, c'est aussi une pensée mathématique. Et les gens dans la rue virent le soleil qui se déplaçait dans le ciel et ils ne savaient pas comment l'arrêter. Les philosophes auraient pu leur dire qu'on ne peut pas arrêter le soleil et la terre bouge aussi, mais ils n'en firent rien, parce que c'était le jour où les philosophes faisaient grève. Alors, le petit président, accompagné du petit secrétaire du petit pays, s'en alla trouver les philosophes. « Bon, vous voulez quoi pour arrêter cette grève ? » demanda-t-il. Et les philosophes répondirent « Nous voulons tout, nous le voulons tout de suite, et nous le voulons pour tout le monde. » Le président ne fut pas en mesure de refuser. Le lendemain, la grève prit fin. La grève des philosophes, mais pas celle des boulangers. « Bon, personne n'est indispensable, dit le président, on ne vit pas seulement de pain. » Après quoi, commença la grève des médecins. « Eh ben, on mangera des pommes. » Puis ce fut les tours de journalistes et des journaliers, des dentistes et des dentistes. Extraordinaire serait le pays où les philosophes seraient considérés comme une catégorie indispensable.
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va.
Je marche en file indienne. Enfin bon, je ne devrais pas dire « je », parce que vu qu'il s'agit d'une file indienne, nous sommes nombreux. Nous sommes une file. Et donc je pourrais dire « nous marchons en file indienne ». Enfin bon, en réalité, les autres, c'est pas que je sache grand-chose de... Dire « nous » n'est pas tout à fait exact. Et en plus, moi, je suis pas le représentant de la file indienne, je peux pas parler au nom de tout le monde. Je pourrais donc dire qu'avec plein d'autres « je » marche en file indienne. Parce que vu qu'il s'agit d'une file, il y en a d'autres, même si je ne sais pas exactement si nous sommes nombreux. Nous pourrions être nombreux, mais aussi un peu plus ou moins que ça. Allez, je me lance. Et je dis que nous sommes, selon toute certitude, plus de 20 000. Vu que moi, je suis le numéro 23724. En réalité, je peux pas en être sûr. C'est quelque chose que j'ai déduit du fait que celui qui marche devant moi m'a dit qu'il est le numéro 23723. Du coup, si les mathématiques ne sont pas une opinion, je devrais être bel et bien le numéro 23724. Mais si 23723 sait qu'il est 23723, c'est parce qu'il l'a déduit du fait que celui qui marche devant lui est 23722. C'est ce qu'il lui a dit. Et c'est ce que lui m'a dit à moi. mais on peut supposer que 23722 n'est pas tellement sûr lui non plus. On peut supposer que lui aussi l'a établi par déduction. Il est clair que celui qui marche devant lui dit qu'il est 23721. Il dit ça parce qu'il le suppose, parce que lui aussi l'a établi par déduction. Mais si tout est bien comme nous croyons que c'est, et si les matiques ne sont pas une opinion, je peux dire que devant moi marchent 23723 personnes en file indienne. Je marche en file indienne. En marchant, je vois celui qui marche devant moi. Je vois sa nuque, son cou, ses épaules et son dos, et puis ses fesses, ses jambes et pour finir, ses chaussures. Son visage, je ne peux pas le voir. Je ne l'ai jamais vu. Ça ne fait rien, je n'y tiens pas. Et de toute façon, je suis sûr que je ne le verrai jamais, parce que 23723 marche en file indienne et ne peut pas se retourner. On peut supposer que 23723 voit lui aussi la nuque, le cou, les épaules, le dos, et puis les fesses, les jambes et les chaussures de 23722. Il est certain que lui non plus n'a jamais vu le visage de 23722. Parce que 23722 non plus ne peut pas se retourner, pour ne rien dire de 23721. Et des 23720 autres personnes qui marchent devant lui. Personne ne peut se retourner, et donc personne ne voit le visage d'aucune des personnes qui marchent en file indienne. Je marche en file indienne. Derrière moi marchent tous les autres. Je ne peux pas dire combien ils sont. Beaucoup, j'imagine, mais je ne peux pas le déduire. Si tout le monde dit vrai, et si les mathématiques ne sont pas une opinion, 23723 personnes marchent devant moi, mais derrière... Je ne sais pas et je ne peux pas le savoir et je ne peux pas non plus l'établir par déduction. Ça fait rien, j'y tiens pas. Mais il y en a au moins un. C'est 23725. Lui non plus ne peut pas me regarder en face. Il ne m'a jamais vu parce que je ne me suis jamais retourné et ne me retournerai jamais. Il regarde ma nuque, mon cou, mes épaules, mon dos, mes fesses, mes jambes et mes chaussures. 23726 aussi regarde la nuque, le cou, les épaules, le dos et puis les fesses, les jambes et les chaussures de 23725. Et ils ne peuvent pas se regarder l'un en face de l'autre parce que 23725 non plus ne peut pas se retourner. Je ne peux pas le voir. S'ils s'étaient retournés ne serait-ce qu'une fois, ils auraient pu se regarder en face. Je ne peux pas savoir si 23725 s'est retourné une fois ou plusieurs fois, mais je déduis qu'il ne l'a jamais fait. J'ai deux raisons pour ça. La première... c'est que personne dans la file indienne ne se retourne. La seconde, c'est que c'est lui qui me l'a dit. Je dois donc me fier à sa parole et à la règle de la file indienne. Je dois m'y fier, même s'il n'y a que 23725 et 23726 qui savent avec certitude s'ils se sont regardés en face. Et ça ne fait rien, je n'y tiens pas. Je marche en file indienne. Je marche... avec la file, je cours avec la file au besoin, mais quelque effort que je fasse, je reste toujours un pas derrière 23723. Il est toujours devant moi. Pas moyen d'arriver à sa hauteur. Je me dirais que je suis un pauvre incapable si je n'avais la consolation de voir que 23723, lui aussi, est toujours un pas derrière 23722. Il le sait, mais ça ne lui fait pas de peine. Il a la consolation de voir que 23722 est lui aussi éternellement un pas derrière 23721. Une douleur partagée est plus facile à supporter. Cela dit, j'éprouve une certaine satisfaction de savoir que je suis toujours un pas devant 23725. Il est toujours derrière moi et n'arrivera jamais à ma hauteur. Même si la file indienne se met à courir, j'ai toujours un pas d'avance. Ce sont des petits plaisirs, mais ça compte. Je marche en file indienne, je suis serein. Je regarde la nuque, le cou, les épaules, le dos, et puis les fesses, et les jambes, et les chaussures de 23723, et je suis serein, je n'ai jamais vu son visage. Ni le sien, ni celui de 23722, ni de 23721, ni de 23720. Mais le numéro 1, le premier de la file, lui, je l'ai vu. Je le vois tout le temps. Je le vois à la télévision. C'est numéro 1 qui nous dit de marcher doucement, et nous, on marche tous doucement. C'est numéro 1 qui nous dit de marcher vite, et nous, on marche tous vite. Numéro 1 nous dit aussi « En avant marche !» et nous, on marche en avant. Oui, il y a un certain temps qu'on marche. Faut cavaler, pas s'affaler, dit numéro 1. Et nous, on suit. on marche aussi au pas de loi, le pas où on marche jambes tendues. Mais si tu marches en file indienne, tu finis par donner des coups de pied au cul de celui qui marche devant toi. D'ailleurs, 23 725, même s'il ne me regarde pas en face, m'a fait plein de bleus aux fesses à force de me botter le train. Mais moi aussi, en marchant au pas de loi, j'ai fait plein de bleus aux fesses de 23 723. 23 723 n'est pas content du tout de se faire botter le train par moi, mais à son tour, il a le plaisir de botter le train de 23 722. Ce sont des petits plaisirs, mais ça compte. Je marche en file indienne, et à un moment donné, j'en vois un qui marche à côté de moi. Et ça, c'est pas possible, parce que nous sommes une file indienne. C'est qui ce type qui se permet de marcher à côté de moi? Je ne le vois pas bien, parce que je ne peux pas me tourner, mais je l'entrevois du coin de l'œil. Je suppose que c'est le chef de file d'une autre file indienne. Mais comment se peut-il qu'il existe un autre numéro 1? Comment se peut-il qu'il y ait une autre file indienne? Si c'était bien le cas, on pourrait supposer qu'ailleurs il en existe encore une autre. Et une autre encore, beaucoup d'autres. Mais il faut qu'il n'y ait qu'une file indienne, une seule. La file est unique. Unique comme Dieu, unique comme la pensée. Et comme maman. Alors je prends mon courage à deux mains et je tourne un peu la tête. Juste un peu, sans me retourner. Sans montrer mon visage à 23 725. Et je vois que celui qui marche à côté de moi est tout seul. Et il fait quoi? Toi seul, je lui parle. T'es qui? Tu viens d'où? Du bout de la file? T'es 23 726? 23 727? T'es quand même pas 28 000, t'es qui? Lui me répond « Mario ». Mais comment tu peux être Mario? Mais de quel droit, imbécile, subversif? Nous sommes tous des numéros. Même numéro 1 est un numéro. Nous sommes des numéros et toi, tu voudrais être Mario? Je sens que la file indienne est terrifiée par le subversif. Je sens qu'elle ralentit. Je vois la nuque de 23 723 qui pivote vers le soi-disant Mario. Je me dis que tôt ou tard, tous les autres vont se tourner vers lui. Et adieu, file indienne. Nous deviendrons un troupeau de moutons. Nous finirons par nous regarder en face. Alors je prends mon courage à deux mains, et je me tourne de côté, et je casse la gueule de ce terroriste. Je le démolis à coups de pied et je le laisse par terre raide mort. Après quoi, je me remets en file indienne. Tous, y compris 23 723 et 23 725, m'adressent un petit applaudissement et entonnent en chœur, à voix basse, un petit hymne. Vive 23 724, 23 724, 23 700. Le danger écarté, la file indienne repart.
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. E con la spunta lo metto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Tango della femminista. Tango della ribellion. Col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte l'ore, indoie pare chi la fermerà. E con la spunta al bulletto c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Aritango della femminista. Tango della ribellion. Con la chioma sciorta al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena, se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più. a tango della femminista.
La multinationale du clou. Il était une fois un petit pays. Dans le petit pays, il y avait la grande multinationale du clou. Il y avait aussi d'autres entreprises et beaucoup de gens travaillaient dans des secteurs différents. Il y avait ceux qui étudiaient la science et distinguaient un litre d'eau d'un kilo de fer. Il y avait ceux qui s'occupaient de fruits et jamais n'auraient confondu une pomme avec une banane. Et il y avait même ceux qui s'y connaissaient en Dieu et ne blasphémaient jamais pendant les prières. Mais ils ne s'intéressaient à rien en dehors de leur propre domaine. Par exemple, il n'y avait pas de scientifiques qui connaissent les fruits, ni de marchands des quatre saisons qui adressèrent des prières à Dieu, de même qu'il était impossible de trouver un croyant qui comprenne quelque chose à la science. Mais tout le monde, scientifique, marchand des quatre saisons et croyant, aurait pu parler de clous. Clous en fer et en acier, de charpentier ou d'électricien, avec ou sans tête, parce que tous les gens, au moins une fois, avaient travaillé pour la multinationale du clou. Des clous, ils en avaient fabriqués ou vendus, ils en distribuaient ou leur consacraient des essais, des traités, y inscrivaient des messages publicitaires et en préconisaient l'usage auprès de tout secteur. Quand la fin de l'année arriva, le chiffre d'affaires n'enregistrait pas de perte, mais pas non plus d'augmentation. Personne n'avait été licencié, ni mis en chômage technique, et même les accidents étaient en baisse. Mais le président du conseil d'administration déclara que « une entreprise qui ne s'accroît pas est une entreprise qui meurt » et que l'année suivante, le chiffre d'affaires devait augmenter à tout prix. Il fallait combattre la concurrence. Pour accrocher un tableau, on a besoin d'un clou. D'ailleurs, dans le secteur de l'accrochage de tableaux, le clou n'avait pas de concurrent. Mais pour construire des meubles, il existait des menuisiers qui utilisaient le clou et d'autres qui préféraient la vis. Et ceux qui utilisaient l'un et l'autre en fonction des situations. La multinationale de la vis était vraiment puissante. Il était difficile de s'opposer à elle. Le président du conseil d'administration demanda à ses techniciens « Pour quelle raison y a-t-il des gens qui préfèrent les vis à nos clous ?»« Les vis sont technologiquement avancées, » répondirent-ils. « Certains les utilisent parce qu'on peut les visser, mais aussi les dévisser et les réutiliser. » On eut alors l'idée de porter à la multinationale de la vis un coup auquel elle ne pouvait s'attendre. Le président acheta la petite usine du tournevis. Il l'acheta et la ferma, et il fit disparaître les tournevis du marché. Désormais, on ne pouvait plus mettre de vis nulle part, et celles qui étaient déjà vissées dans le bois y resteraient, englouties à jamais. Cette année-là, le chiffre d'affaires de la multinationale du clou augmenta. Les actionnaires étaient contents, de même que les conseillers du conseil d'administration, mais le président était soucieux. Il allait être difficile d'atteindre une nouvelle fois une telle augmentation. Il fallait conquérir de nouvelles parts de marché. La multinationale de la colle était un concurrent bien difficile à affaiblir. On utilisait des clous un peu partout, mais dans certains secteurs, la colle ne pouvait être remplacée. Par exemple, dans le secteur des timbres. On ne peut pas clouer un timbre sur une carte postale. On a inévitablement besoin d'elle. De colle. Alors, le président déchaîna ses techniciens pour qu'ils discréditent la multinationale de la colle du point de vue moral. La colle était visqueuse, collante, et même souvent nauséabonde. Mais parmi les nombreuses informations compromettantes, la plus décisive que ces experts parvinrent à débusquer fut que dans certains pays pauvres, on utilise la colle de cordonnier comme drogue. Des gamins en sniffaient dans des sacs en plastique. Bien entendu, toutes les colles n'étaient pas des drogues. La colle de poisson, par exemple, on peut en mettre sur les gâteaux sans que ça produise d'effet déplaisant, mais la bataille politique fit rage contre la colle en général. « Il n'existe pas de colle douce et de colle dure », dit le président, et il inaugura la campagne « Tolérance zéro contre la colle ». En l'espace de quelques jours, les enfants se mirent à utiliser des clous, même pour accrocher leurs images. Cette année-là, le chiffre d'affaires de la multinationale du clou battit tous les records. Les actionnaires étaient enthousiastes, de même que les conseillers du conseil d'administration. Mais le président était terrifié. Comment pourrait-il donc dépasser ces résultats exceptionnels ? Il fallait conquérir de nouvelles parts de marché. Désormais, le seul concurrent du clou, c'était le clou lui-même. Alors, on inaugura une campagne en faveur de la mise à la casse du clou. Le gouvernement prit des mesures incitatives en vertu desquelles quiconque rapporterait ses vieux clous dans les points de revente agréés recevrait en échange et à un prix de faveur de nouveaux clous. On renouvela tout le parc clous et les vieux clous étaient refondus pour fabriquer des clous neufs. Mais qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire de tous ces clous recyclés ? Bien, la multinationale du clou était la plus puissante du monde et elle ne pouvait plus s'accroître encore. À moins de s'allier avec l'autre colosse, la multinationale de la foi. Une longue et secrète négociation eut lieu, car les théologiens, aussi bien que les clouologiens, étaient convaincus que la foi et le clou n'avaient rien en commun et représentaient même deux visions opposées. L'une reposait sur la confiance en l'existence de Dieu en dépit de son inaccessibilité objective, l'autre consistait en matière tangible par excellence, on se rend compte de l'existence d'un clou lorsqu'il pointe d'une chaise et qu'on pose ses fesses dessus, et il n'est nul besoin de le voir de ses propres yeux, ni de le toucher de la main, comme le fit Thomas avec les blessures de notre Seigneur. Si la piqûre du clou existe, alors c'est que le clou existe aussi. C'est une preuve irréfutable. Mais vu que celui qui gère un groupe, s'il ne sert pas la soupe, la tête on lui la coupe, ils mélangèrent leur tambouille jusqu'à tomber d'accord. Ils parlèrent conjointement en mondovision pour annoncer que le clou n'avait pas encore été utilisé de la bonne façon et ils incitèrent les habitants du petit pays à se rendre dans les grands centres commerciaux du clou afin d'y acheter des clous pour accrocher tableaux, placards muraux et timbres. Mais ils produisirent également des meubles et des vêtements en clous, des lits en clous, où dormir, car après tout les fakirs dorment là-dessus depuis des siècles. Mais aussi des chaussures, chapeaux et slips en clous. Le sport aussi allait être entièrement centré autour du clou. L'objectif au football serait maintenant de trouver le ballon de l'adversaire. De même qu'il faudrait crever les pneus des autres concurrents de Grand Prix. Après le sport, tout le monde irait au restaurant ou au bar, dans les fast-foods ou chez soi, manger des clous crus ou cuits, froids ou chauds, arrosés de distillat de clous et de clous pressés. Les clous, c'est bon pour la santé. Ça contient du fer. Avec les clous, on avait même le droit d'avoir des rapports intimes, car la multinationale de la foi ne considérait pas comme péché que les rapports extra-conjugaux avec des êtres vivants, humains ou animaux, y compris les rapports avec sa propre main, mais pas ceux avec des matériaux inertes. Le clou était de tout point de vue une bénédiction pour le genre humain. Aussi les conseillers d'administration des multinationales de la foi et du clou annoncèrent-ils qu'un jour de la semaine serait dédié au clou. Dans le petit pays, tout le monde travaillait désormais pour le clou, et le jour en question, tout le monde devrait s'arrêter, rejoindre les lieux de dévotion du clou et prier pour le clou. On pouvait dire que dans l'usine de clous, on ne fabriquait plus des clous, mais la foi dans le clou. La multinationale du clou construisait des constructeurs de clous. On comprit bientôt que l'alliance entre la multinationale du clou et la multinationale de la foi était aussi naturelle que celle du pain et du fromage, ou du cul et de la chemise, et même qu'elles avaient toujours été implicitement le complément l'une de l'autre. Le président de la multinationale de la foi déclara « Le Christ lui-même voulut se raviser au moment de mourir. S'il n'y avait pas eu des clous pour le maintenir en place, il serait descendu de la croix et l'histoire aurait suivi un tout autre cours. C'est le clou qu'il a gardé, cloué à son destin. C'est pourquoi nous adorons le Christ, mais également le clou !» À compter de ce jour, les citoyens du petit pays furent entièrement pris par le clou. Et quand ils ne travaillaient pas à son service, ils allaient prier pour lui. La nouvelle génération vit le jour dans un pays où il était devenu impossible d'imaginer un monde sans clous. Et tout le monde comprit que penser un monde sans clous aurait été exactement pareil que de penser un monde sans monde.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Voilà, c'est ainsi que se termine Lu et approuvé ce soir. Ce soir, nous avons lu pour vous, je pourrais dire je vous ai lu Asciano Celestini. Alors j'espère que je prononce pas trop mal quand même. Donc Celestini, un auteur italien contemporain, enfin en tout cas qui écrit actuellement. Et donc, dans le livre Discours à la Nation, on vous a lu plusieurs extraits. Donc il y avait notamment Les Vainqueurs, Je fouille un petit peu dans mon bouquin, La Grève des Philosophes, Je marche en file indienne, n'est-ce pas? Et puis La Multinationale du Clou. Enfin, peut-être, non, j'aurais voulu en lire d'autres, mais bon, le temps tourne et la fatigue se fait sentir. Alors, eh bien, Lu et approuvé, c'est chaque mercredi soir à 23h30 jusqu'à un petit peu plus tard, vers minuit et des brouettes. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur notre blog luetapprouvé.noblogs.org. Il est un petit peu dur à trouver. Sinon, vous pouvez aller également sur notre page, sur le site de Canal Sud, www.canalsud.net. Vous tapez Lu et approuvé et vous tomberez très certainement sur tous nos podcasts, les informations de nos lectures, etc. etc. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire en nous envoyant un courrier au 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, ou sinon par mail, parfois c'est plus simple quand même, luetapprouvé@guyade.org, luetapprouvé tout attaché sans accent, @guyade.org. Voilà, je crois qu'on a tout dit, vous pouvez retrouver donc les podcasts, j'ai donné les contacts, donc voilà. On n'a plus qu'à se dire à la semaine prochaine, 92.2 FM en région toulousaine et www.canalsud.net partout ailleurs. Salut, bonne soirée et à la semaine prochaine.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles, mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
A better world, a better world, a better world, a better world.